bonsoir, chers auditeurs, auditrices d'Aligre FM. Nous saluons avec nous à la régie René Clancy et Armand Gury. Vous êtes dans Chacun son tempo. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Bogaerts, auteur, compositeur, interprète incontournable de la chanson française. Il nous offre depuis 30 ans déjà son univers à la fois riche et minimaliste, en se tenant toujours à l'écart des tendances, ce qui nourrit le caractère si singulier et intemporel de sa musique. Aujourd'hui, il vient nous parler de Grand Piano, son 9e album studio, sorti le 17 janvier 2025. Nous célébrons donc avec lui son anniversaire en ce début d'année, car depuis un an, il parcourt la France en tournée. Pour ceux qui l'auraient manqué, pas d'inquiétude, il reste encore une dizaine de dates, un peu plus même à venir, pour le découvrir sur scène. Cet album, son meilleur, soit dit en passant, est composé de 12 titres magnifiquement arrangés qui explorent avec finesse les questions existentielles qui nous traversent tous. Et si Mathieu Bogaerts nous touche autant, c'est que chacun de ses mots, tout comme lui d'ailleurs, semble toujours trouver sa juste place. On écoute Mélancolie. Bonsoir Mathieu Bogaerts.
Bonsoir madame.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, ça me fait toujours, je suis toujours flatté d'être invité, j'aime bien. On va parler de mes chansons, tout ça, donc je me sens plutôt privilégié d'être là.
Comment vous allez ?
Pas mal. Alors c'est une question, c'est difficile de répondre parce que est-ce que c'est juste maintenant ? Est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est en ce moment ?
Comment est-ce donc, que vous allez en ce moment ? Parce que vous êtes en pleine tournée ?
Alors, je suis en pleine tournée, mais c'est pas la réponse que j'aurais donnée spontanément, parce qu'il reste effectivement une petite quinzaine de concerts sur 80, donc je suis en fin de tournée, on va dire. Et nous venons de passer la nouvelle année depuis quelques semaines. Et je suis quelqu'un de très organisé, très structuré, c'est comme ça que j'arrive à faire des choses. Donc, je m'étais conditionné depuis quelques mois à commencer un nouveau répertoire à partir de début janvier. Donc là, j'ai déjà tourné une page un peu. Je suis en train de me projeter sur l'avenir, on va dire. Ou sur le présent, plutôt. Donc la tournée, je suis ravi d'avoir encore 15 concerts, mais c'est déjà voilà, c'est la fin de quelque chose.
Cet album, qu'est-ce qui représente pour vous ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier. Vous dites vous-même que c'est le meilleur. Alors, est-ce qu'à chaque nouvel album, on se rapproche d'un genre d'idéal, de perfection et... Ou est-ce que celui-là, il a quand même quelque chose de différent ?
Alors, je ne suis pas objectif parce que là, je parle d'un disque récent. Et effectivement, si vous m'aviez posé cette question à chaque fin de disque, j'aurais peut-être répondu la même chose. C'est-à-dire, si j'assume de sortir un disque, il faut vraiment que j'ai le sentiment qu'il soit meilleur que le précédent et qu'il soit d'être allé jusqu'au bout de quelque chose. Donc j'ai toujours été très ambitieux dans mes chansons, dans mes disques, mais c'est normal, enfin c'est la moindre des choses. Donc celui-là, j'ai l'impression que c'est le meilleur, mais je pense que le précédent, j'avais peut-être sûrement ce sentiment aussi. Voilà. Après, ce disque se distingue pour d'autres choses, comme chaque disque a son identité. Mais l'identité du disque se fait surtout dans la production du disque, parce qu'en fait, un disque, pour moi, c'est deux étapes. C'est d'abord des chansons qui ont chacune qui sont censées se suffire à elles-mêmes. Donc j'écris des chansons. Et après, quand je les produis, bah là, je me donne un cadre en me disant voilà, ce disque-là, je vais le faire tout seul, ou avec des musiciens, ou en machin, ou en rock, ou en bidule, ou en chouette. Et là, je donne des je ferme un peu, enfin, je choisis un cadre auquel je vais me tenir. Donc chaque disque a un peu son et sa facture, parce que j'ai choisi le cadre dans lequel j'allais le produire.
Et dans celui-là, il y a quelque chose de presque plus solennel. Est-ce que vous aviez envie de plus de puissance, d'espace, en travaillant cette production de cette façon, avec tous ces musiciens ?
Alors, on va dire que l'idée de ce disque, enfin, en tout cas le cadre que je me suis fixé, c'était un disque avec des très bons musiciens, dans un très bon studio, avec des très bons micros.
Ouais.
Ça peut paraître évident, mais en fait, des fois, on peut faire un disque très bien, un peu justement avec des mauvais micros, et ça fait autre chose. Enfin, donc là, je voulais un truc un peu chic, on va dire.
Parce que je rappelle le titre, pardon, c'est Grand Piano.
Tout à fait. Donc le mot grand dans Grand Piano formule un peu cette intention. C'est sûrement en réaction au disque précédent que j'avais voulu faire qu'à deux dans un petit studio avec une batterie mono avec un seul micro que je jouais avec les mains. Donc un truc très plutôt plus intime, plus sec, plus mono. Mais ça, c'était un choix esthétique et j'aime bien. Et là, en réaction, parce qu'en fait, quand je fais un disque, il faut que ça m'amuse, il faut qu'on dit bien jouer de la musique, il faut qu'il y ait quelque chose d'excitant, de nouveau. Donc, en réaction au disque précédent, j'ai voulu faire un disque justement avec d'autres matériaux.
Et comment vous l'avez vécu alors sur scène ?
Alors sur scène, la scène, c'est encore autre chose, parce que les chansons vraiment existent à la guitare, je pourrais vous les chanter, là je ne vais pas les chanter, mais... Pour moi, le plus gros du travail, c'est écrire la chanson. Et quand j'écris la chanson, je ne sais pas s'il y aurait des violons, un orchestre symphonique, un groupe de rock. Je m'en fous un peu. Ce qui m'importe, c'est la mélodie, la structure et les paroles. Et après, ça peut être mis en scène de plein de façons différentes. Donc là, en l'occurrence, sur ce disque, je me suis dit, la mise en scène, entre guillemets, c'est des bons musiciens dans un bon studio. Mais j'aurais pu faire ça avec un groupe de Péruviens, ça aurait marché aussi. Voilà. Donc quand je fais des concerts, il n'est pas question de copier-coller le disque, parce que il y a... Une chanson peut avoir tellement de formes différentes, ça serait dommage de se réduire à une forme. Donc là, j'avais envie, comme j'ai fait un disque, au risque de paraître contradictoire, mais comme j'ai fait un grand piano, je voulais un grand groupe, malgré tout. Je voulais faire un concert avec plusieurs musiciens, ce qui n'avait pas été le cas depuis quelques années où j'avais fait beaucoup de concerts solo. Et donc, j'ai fait des auditions. Enfin voilà, en gros, on a un local de répétition toute la journée, puis il y a un batteur qui passe toutes les heures, on essaye... Ça se passe de manière très... c'est sympa, c'est pas des mecs qui arrivent avec des costards cravates et un petit dossier qui attendent derrière le truc. C'est des copains, quoi, enfin plus ou moins. Et puis voilà, les planètes se sont alignées. J'ai trouvé trois musiciens excellents qui sont vraiment au service de ma musique et qui ont vachement de style, vachement de personnalité. Et donc c'est des concerts... Je suis totalement... c'est les meilleurs concerts que j'ai jamais fait, j'ai l'impression. Enfin vraiment, je suis totalement fan de la proposition sur scène. Et on fait à peu près 25 chansons et on fait 7-8 chansons de grand piano et 15 chansons d'anciens disques.
Et votre particularité aussi, c'est que vous faites des concerts qui ne se ressemblent jamais, quoi. C'est-à-dire que vous ne faites pas toujours les chansons dans le même ordre.
Vous avez assisté au concert ?
Non, pas encore.
D'accord. Parce qu'effectivement...
Il y a eu ça dans les concerts en 2024
ouais,
aussi.
Tout à fait. En fait... Quand j'ai mis au point le spectacle, mettre au point le spectacle, ça veut dire déjà trouver les bons musiciens, choisir quelles chansons, et les répéter, donc trouver un arrangement pour chaque chanson. Mais il m'a été impossible jusqu'à un quart d'heure avant le premier concert de me mettre d'accord sur l'ordre des chansons. J'arrivais pas, j'ai passé 2 mois tous les matins devant mon miroir chez moi, me dire bon, je commence par ça, après je fais ça. Ah non, enfin, j'arrivais pas à trouver une narration, sachant que chaque chanson a son propos, son sentiment, sa musique, son rythme, son tempo. Il y a une chanson connue, une chanson pas connue, une drôle, une sérieuse, une longue, une courte. Enfin, donc c'est tout un...
Mais c'est la première fois que vous aviez du mal ou c'est toujours...
J'ai toujours eu du mal, mais là, je n'ai pas réussi, vraiment. Okay. Et donc, juste, j'ai dit, bon, voilà, je vais arriver sur scène, je vais dire ça aux gens. Et je vais tirer les chansons au sort. Et que, voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant 30 concerts. Donc chaque concert avait une structure... C'était les mêmes chansons, mais dans un ordre différent. Donc c'était très ludique, on a vraiment beaucoup aimé faire ça. Mais toutefois, il y avait quand même des concerts un peu ratés, parce qu'on commençait par 4 chansons très lentes, très tristes, puis après il y avait un tube qui avait rien à voir, puis... et voilà, et j'ai réussi enfin à me résoudre à un ordre qui me plaît énormément, et c'était en septembre 2025. Donc depuis septembre 2025, on joue le même concert avec le même ordre.
Je vous rappelle le concept de l'émission, on découvre vos derniers titres et les titres qui ont un peu façonné votre chemin de musicien, d'humain. Donc on va commencer avec un titre qui vous rappelle votre enfance, Père Ubu.
Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Mathieu Bogaerts. C'est un titre que vos parents écoutaient beaucoup, si j'ai bien compris.
Alors je précise qu'avant de mon arrivée dans ce studio, on m'a posé la question, je ne sais plus vraiment quelles étaient les questions, mais... La question précise, c'était quelle est la chanson qui vous a marqué ou c'était quoi la question ?
Un titre de votre album d'enfance.
D'accord. Donc je me suis pas posé, j'ai été le plus spontané possible. J'aurais pu en trouver d'autres, hein, mais c'est celle-ci qui m'est venue. Donc c'était Dick Angarn. Donc je vais raconter une histoire que j'ai racontée plein de fois, mais j'ai pas de souci à la raconter. Mes parents écoutaient ça quand j'étais petit, mais moi je savais pas qui c'était. Enfin, c'est pas moi qui mettais le disque, donc je n'identifiais pas qui chantait. Là, je parle de 1975. Hein. D'accord. Parce que je suis né en 70. Voilà. Et puis après, j'ai complètement oublié que ça existait. Enfin, ça a duré quelques années dans ma vie. Et puis à 20 ans, donc beaucoup plus tard, un copain me dit « Ah, tu connais ça ?» Et il met ce disque. Et là, je n'avais pas écouté ça depuis 15 ans et je suis hyper ému. Je me dis « Putain, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça, en fait, ce vers quoi je tends. C'est ça que j'essaie de reproduire, en fait. » Il m'est apparu évident en redécouvrant cet album qu'il avait été vraiment...
Il était fondateur, en
fondateur,
fait.
Fondateur, tout à fait. Et après, j'ai eu la chance de le rencontrer. On a fait une tournée ensemble. Maintenant, c'est un copain. Mais c'était... Voilà. Donc ça, cette chanson, elle date de 73. Et j'ai un souvenir, un très vieux souvenir de moi sur les genoux de mon père qui fait « Il avait un tout petit zizi ». Voilà, c'est vraiment c'est un de mes premiers souvenirs de chansons d'enfance.
Et c'est un artiste, du coup, vous êtes dit je veux faire comme lui. Parce
c'était
que...
inconscient. Ça, quand j'ai redécouvert le truc, je me suis dit « Mais c'est ça !»
C'est ça que je veux faire.
C'est ça, en fait, que j'essaie de faire.
Ouais.
Mais c'était pas conscient, ça. Je me suis dit pas ah. Parce que, d'ailleurs, une fois que c'est conscient, ça bloque parce que j'ai pas du tout envie de faire comme autrui. Et c'est pas ça que je fais non plus. Mais en tout cas, ça, c'est clairement une influence énorme dans le ton. Alors cette chanson, elle est particulière. Elle a un côté, elle parle pipi, caca, machin. Elles sont pas toutes comme ça. Mais dans le côté un peu naïf, là, le son, le choix des mots, la mélodie, le ton, la liberté, le truc. Enfin. Ça me cause grave.
Mais d'ailleurs, il y a quelque chose de... C'est un sujet pour vous de faire différemment. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas envie de suivre d'autres tendances, un artiste, c'est même dans les années d'adolescence où on a tous envie un peu de rentrer dans un groupe, de faire comme les copains, vous c'est l'inverse quoi.
Alors sans vouloir paraître snob, même si je le suis, pour moi c'est évident, en fait c'est article numéro 1 de faire de la musique ou de la peinture ou quelques disciplines artistiques que ce soit, c'est justement de ne pas faire ce qui est fait déjà, sinon c'est déjà fait, je ne veux pas le faire. Donc pour moi c'est une évidence. Donc moi si par exemple je lis un article dans le journal en disant il y a un nouveau synthé à la mode, le B12 machin, bah, le dernier synthé que je veux avoir c'est celui-là. Je vais me dire c'est celui qu'il ne faut pas avoir, c'est celui-là.
Oui.
Mais je trouve ça
parce
normal.
Parce que tous les artistes ne pensent pas comme ça.
Donc, pour moi c'est une évidence. Et c'est vrai que dans la musique que j'aime, les films que j'aime, les livres que j'aime, etc., c'est justement les trucs qui se distinguent, qui ont vraiment une identité propre, et les trucs de suiveur où le mec a le même son que machin, etc., ça me gonfle, enfin, j'y crois pas. Et voilà. Après, j'ai pas la science infuse, j'irai pas manifester dans la rue parce que Bidule prend le son de Chouette, mais globalement, oui, pour moi c'est évident, et quand j'écris une chanson, je recherche quelque chose que j'ai jamais formulé, que... Voilà.
Comment est-ce que vous étiez quand vous étiez tout petit, quand vous étiez enfant ?
Alors, il y a deux choses. Il y a ce que j'étais vraiment et le souvenir, et ce dont je me souviens et ce dont j'ai envie de me souvenir. Parce que je pense que si je me voyais enfant, là, d'un seul coup, je serais pas du tout comme le souvenir que j'en ai. Donc, je crois que j'étais assez drôle, assez maladroit, parce que ma mère s'occupait de tout pour moi. Donc, je pense que je savais pas me faire mes lacets à 7 ans. Enfin, bon, genre un truc comme ça. Gentil, je crois. Enfin, j'ai toujours été assez gentil, je crois. Enfin, même à l'école, par exemple, j'étais nul à l'école, mais je faisais rire tout le monde, mais j'ai jamais été insolent ou agressif avec la prof ou un truc comme ça.
Et la musique, c'est venu assez naturellement chez vous ?
La musique, c'est venu à peu près à 10 ans parce que mon père était brocanteur. Et sur un opus, il avait acheté un orgue Farfisa, un orgue électronique de salon. Et il l'avait trouvé comme ça d'occasion. Il l'avait acheté à ma mère parce qu'elle avait fait du piano enfant. Et il s'est dit, je vais lui offrir, elle va se remettre au clavier. Puis finalement, elle n'a pas du tout joué. Et moi, sans qu'on m'y invite, c'était devenu mon jouet préféré dans la maison. Un orgue électronique, voilà, avec trois sons. Et ça, j'avais 10 ans. Mais c'était toujours autodidacte. J'ai jamais pris de cours de musique.
On continue avec votre deuxième titre, Dans une case.
Dans une case et tu m'as mis, dans une case et tu m'as mis, entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris, dans une catégorie, et là je ne peux plus bouger, et là je ne peux plus bouger, carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé, dans la case où tu m'as casé. Je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est par où la sortie ?
Dans une case tu m'as mis.
Moi je dis c'est une erreur, j'ai rien à faire dans le secteur. Y'a pas la hauteur, y'a pas la longueur, y'a pas la largeur. Fallait pas appuyer enter. Quelle idée de fais-tu de moi ? C'est trop réduit, c'est trop étroit. Dans ta tête dure, combien je mesure, un tout petit poids. Ah ça c'est sûr, c'est pas la joie. Ainsi je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est par où la sortie ? Dans une case tu m'as mis. Y aurait-il moyen de bouger un peu ? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête. Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case
et
tu m'as mis.
Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case tu m'as mis.
Vous Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Mathieu Bogaerts. Comment il est venu ce titre ?
Alors il est venu comme tous les titres, 99% des titres. C'est que je ne cherche jamais à écrire une chanson. Pour moi, le pire truc, c'est de me dire qu'il faut que j'écrive une chanson, prendre une guitare et chercher. Donc 99% des chansons que j'ai écrites, c'est le premier truc qui est arrivé sans que je le cherche, parce que je passe beaucoup de temps à jouer de la guitare, comme ça, de manière très gratuite, sans enjeu. Je gratouille comme ça chez moi ou n'importe où. Et quand je fais de la guitare, c'est toujours j'improvise, quoi, je m'amuse. Enfin, mes doigts se baladent sur les cordes. Et des fois, au fil de ces gratouillis, oh ben j'atterris sur une suite d'accords, un petit riff, un truc qui va me plaire. Donc je m'attarde un peu, mais il n'y a pas d'enjeu. Je ne suis pas du tout en train de travailler, quoi. C'est vraiment très spontané. Et en général, ça convoque toujours de la voix. Donc là, en l'occurrence, j'avais trouvé Pong Gang et Dong Gang, Kong Gang et Dong Gang, c'est la guitare. Et spontanément, il y a un truc qui dit Qu'est-ce que tu m'as mis ? Il y a ça qui sort. Mais c'est juste qu'une phrase. Après, si la phrase arrive, c'est que je m'autorise à un lâcher-prise. Un peu, il y a une espèce de truc où je m'abandonne à quelque chose. Et voilà, donc là, j'ai dans une case, tu m'as mis. C'est tout, j'ai que ça, mais d'un seul coup, c'est comme si la chanson existait déjà. Je vois tout de suite de quoi j'ai envie de parler. J'ai tout de suite déjà la forme, le ton. Il y a déjà la brique étalon, on va dire, qui est là. Et voilà, et à ce moment-là, j'arrête là parce que j'ai pas forcément le temps. Enfin, je suis pas disposé à travailler. Mais ça, je le mets de côté. Je sais que c'est là, et un jour, quand je vais vraiment mettre à travailler, bah, je vais aller dérocher tous ces petits bouts qui sont arrivés dans les derniers mois. Et je vais vraiment dérouler le fil et développer la chanson, et là, ça devient du travail. Donc cette chanson est venue, comme les autres, donc très spontanément.
Mais c'est ça. Qu'il y a un sujet avec le fait d'être dans une case.
Voilà,
pas...
donc après, si cette phrase arrive,
c'est qu'il y a forcément
j'ai pas décidé,
quelque
chose... je me suis pas dit je vais écrire une chanson là-dessus, et je cherche une forme. C'est la forme qui arrive, et qui m'évoque le propos, et d'un seul coup, voilà, je tiens quelque chose. Ah oui, tiens. Et donc c'est pas un hasard si c'est cette phrase qui est sortie plutôt que j'aime les frites bleues ou je pars en vacances au ski. Si c'est ça qui est venu, c'est que c'est un truc qui sort de moi, donc j'y crois aussi, il y a quelque chose de spontané. Et donc c'est une chanson sur le fait de sur les idées préconçues, mais j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Et quand je dis dans une case tu m'as mis, moi je mets les gens dans les cases aussi, et pas que les gens d'ailleurs. Enfin on a besoin de catégoriser gentil, méchant, riche, pauvre, beau, moche.
Oui, bien sûr. Oui, vous dites on le fait tous naturellement, il y a pas de colère contre ça ou de revendication.
J'ai jamais aucune revendication. En fait, je prétends jamais détenir une vérité que j'aimerais comme ça diffuser dans mes chansons. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Moi, je suis des fois gentil, des fois méchant, des fois bourreau, des fois victime, des fois beau, des fois moche, des fois heureux, des fois malheureux, des fois je sais, des fois je doute, enfin, comme tout le monde, je crois. Et mes chansons, chaque chanson a vocation à cerner un sentiment comme ça, à le formuler. C'est un instant, c'est une partie de moi. Donc ça, en concert, par exemple, dans une case, une timamie, je peux l'incarner pendant 3 minutes, ce personnage-là. Et puis 2 minutes après, je vais chanter une mélancolie, puis après, je vais chanter ça... Mais je ne suis pas plus mélancolique que qui que ce soit et je ne mets pas plus les gens dans les cases que vous. Enfin, je ne crois pas.
Mais c'est une des choses que je trouve fascinante chez vous, c'est que vous n'avez aucune difficulté à verbaliser tous vos paradoxes et toutes vos contradictions. Et ce n'est pas si courant, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable de dire « là, je me sens ultra puissant et grand, là, je me sens très fragile et tout petit », mais vous le... C'est-à-dire que c'est ouvert, quoi, il n'y a pas...
Là, vous parlez en interview ou dans les chansons ?
Dans tout. En étant vous, c'est-à-dire en tant qu'artiste et même en tant qu'humain.
Bah, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression... Enfin, même autour de moi, mes amis, mes copines, ma famille, j'ai l'impression qu'on est tous comme ça. Enfin, à moins que je crois pas... Enfin, qu'on est des fois victime, des fois bourreau, des fois en fonction de qui... En fonction de la situation, on se sent plus ou moins à l'aise, plus ou moins... on maîtrise pas, des fois je me sens pauvre, des fois je me sens riche, des fois je me sens très intelligent, des fois je me sens stupide, enfin vraiment.
C'est une évidence pour vous, quoi.
Voilà, c'est une évidence, et puis il n'y a aucune raison de ne pas assumer ça, quoi. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être un héros parce que je dis ça, quoi, pas du tout.
On continue avec un titre de votre album de chevet, Tôt, de Tom Zé.
Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Mathieu Bogaerts. Merci pour ce titre qui fait du bien. En quoi il influence votre musique, cet artiste ?
Alors, je ne sais pas ce que je dirais, parce que l'influence, c'est quelque chose de très inconscient. Je ne sais pas ce qui m'influence. Enfin, il y a la musique que j'ai choisi d'écouter, puis celle que je subis. Des fois, je vais dans un supermarché, il y a des morceaux que je n'ai pas forcément envie d'écouter,
qui vous
mais qui peuvent m'influencer. Oui. Il peut m'arriver des fois, a posteriori, de retomber sur un vieux truc que j'avais trouvé pourri. Je me dis, ah putain, mais... ça vient de là, cette phrase, ou je sais pas, tel accord ou tel truc. Donc ça, je sais pas si ça m'influence, mais quand j'ai découvert ça, il s'appelle Tonzé, donc c'est un Brésilien, ça c'est un morceau des années 70. J'ai adoré le son, le mouvement, la liberté, le truc, je sais pas. Donc c'est un disque que j'ai beaucoup écouté, voilà. Si vous m'en aviez demandé 20, j'aurais pu en citer 20. Donc c'est pas dans mon top 2 absolu, mais j'aime beaucoup ça, voilà.
Vous écrivez des nouvelles chansons en ce moment ?
Alors, en ce moment, j'essaie un truc différent parce que, donc, tout à l'heure, j'expliquais qu'une chanson naît 99% du temps par un moment, comme ça, je suis avec ma guitare, je cherche, je suis en train de m'amuser sans enjeu, puis d'un seul coup, il y a une suite d'accords, ça me plaît, je m'attarde, je chante un truc, et voilà, en deux minutes, j'ai un début de chanson. Et là, je sens que j'ai pas envie de faire comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir trop de chansons comme ça. Enfin.
Vous avez toujours fait comme ça, en fait.
Oui, tout à fait. Et là, en fait, le fait d'avoir fait des concerts beaucoup récemment et d'avoir dû à choisir entre 150 chansons, d'en mettre que 25, je suis repassé un peu par tout mon répertoire et je me dis, putain, j'en ai une triste, j'en ai une lente, j'en ai une rapide, j'en ai une drôle, j'en ai une rock, j'en ai une machin. J'ai l'impression d'avoir faites, les chansons. Et donc, ma hantise, ça serait de refaire un truc que j'ai déjà fait ou moins bien. Enfin, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut que j'ai l'impression à chaque fois que ça soit mieux ou en tout cas nouveau. Donc là, je me suis conditionné pour procéder autrement. Et donc, plutôt que commencer par une chanson à la guitare que j'irai ensuite produire, je commence par de la production. Donc, je commence par le décor, on va dire. Donc, j'ai équipé mon ordinateur pendant des mois. Enfin, j'ai soigneusement sélectionné des sons, des machins, enfin, une espèce de palette. Et là, je me mets en studio et justement, je cherche. Donc, c'est le contraire que d'habitude où je laisse venir. Et je fais tourner des trucs. Enfin, je cherche. Et puis, d'un seul coup, je vois ce que ça peut convoquer comme mélodie, comme voix. Sachant que comme je chante sur un autre environnement qu'une guitare sèche ou un truc, bah c'est un autre ton, c'est autre chose qui arrive. Et ça sera, a priori, c'est des morceaux qui auront plutôt deux accords, plutôt trois accords que des chansons qui se développent sur plein d'accords ou qui sont... Voilà. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, je viens juste de commencer.
Okay.
Donc c'est très ludique, c'est un truc, je retrouve un peu... je me dis, j'ai une chance inouïe. Là, je me suis organisé pour pouvoir passer des journées entières, du matin au soir, à m'amuser, à faire de la musique, à faire des trucs sans. Voilà.
Vous êtes complètement libre là. Il y a quelque chose.
Voilà, après, j'ai un fils, j'ai plein de trucs dans la vie qui fait que je suis pas non plus. Enfin, en tout cas, musicalement, là, puis je me dis, si j'y arrive, tant mieux, puis si j'y arrive pas, j'arrête.
Non, comme ça,
Je me suis dit ça parce que j'aimerais pas faire le disque de trop. Enfin. Aujourd'hui, je ne peux pas garantir que le disque que je suis en train de commencer, il ait sa pertinence et sa légitimité. Je tends vers ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas encore le signer. Et j'ajoute le fait que le marché de la musique a vachement évolué, etc. Donc, je suis aussi un peu démotivé. Je me suis aperçu que un album qui sort aujourd'hui, que j'attends donc d'un artiste que j'aime beaucoup, si je l'écoute beaucoup, l'album, je l'écoutais 10 fois. 10 fois, c'est le maximum que je vais écouter un album que j'attends, on va dire. Voilà. Et contrairement à avant, où on achetait un disque et on l'écoutait 200 fois. Et je ne suis pas en train de dire que le monde d'avant était meilleur qu'aujourd'hui, pas du tout. Mais en tout cas, ça biaise mon envie de faire un album. Parce que je me dis, par exemple, là, quand je fais des concerts, les gens connaissent les 2-3 chansons qui ont été extraites de l'album. En l'occurrence, on en a déjà écouté 2, là, Dans une case et Mélancolie. Mais les autres, je sens qu'ils les connaissent moins, alors que moi, je les aime tout autant, et que j'ai sué dessus pendant des mois, et que j'adore ces chansons, et que les gens passent à côté, parce qu'en fait, ils passent d'une chanson à l'autre. Ce que je comprends, parce que je fais pareil. Donc ma motivation à la veille de faire un disque est quand même assez... je sais pas si je veux faire un album, quoi. Je sais plus quel sens donner à ça.
Ah, donc ça pourrait être des chansons sous une autre forme, peut-être ?
Peut-être, mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas, mais okay. En tout cas, je m'aperçois que je suis pas dans le même état d'esprit que j'ai pu l'être en commençant un album avant. Parce que je me suis aperçu que moi-même, je ne consommais plus vraiment d'albums.
Donc, c'est assez excitant, somme toute, de changer un peu de façon de faire.
Ouais, c'est excitant, mais quelle réalité économique ça a, quelle pertinence, enfin, c'est des questions que je dois me poser aussi. Donc je ne sais pas. Là, j'ai la chance d'avoir... J'ai l'argent de côté, j'ai du temps, donc je peux faire de la musique en m'amusant. Je ne sais pas trop pourquoi je la fais, si ce n'est me faire plaisir, mais je ne sais pas trop si un jour je la vendrai, quoi.
Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens d'expression qui vous attireraient plus maintenant ? Parce que je sais que ça fait longtemps que vous aviez envie de faire un film, par exemple.
Alors, j'adore le cinéma, vraiment, je suis fasciné, mais je suis tellement perfectionniste et que pour moi, c'est un truc, j'ai peur d'en mourir, quoi.
Tellement, ça peut être un court-métrage, hein ?
Oui, c'est sûr. Je sais pas, j'ai pas de réponse, non, je sais pas de réponse, mais il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais non, j'ai pas de réponse.
On continue avec votre titre, Ma jeunesse. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Mathieu Bogarts. Le temps qui passe et qui avance, et vous dites aujourd'hui c'est presque fini. C'est quand même un peu, c'est un peu dur pour vous-même.
Bah, 55 ans, je peux dire que ma jeunesse c'est presque fini.
La jeunesse, oui, ouais. Mais bon, vous êtes quand même...
Mais je ne parle pas de la vie, je parle de la jeunesse. Oui. D'ailleurs, c'est... Quand j'ai trouvé ce texte, j'ai rigolé. Est-ce que je peux dire ça? Enfin, je trouvais ça marrant justement qu'à 55 ans, on pense que c'est bientôt fini la jeunesse. Donc, ça...
C'est une vraie angoisse le temps qui passe.
Ouais, et depuis que je suis petit en fait. Enfin, c'est petit, vrai enfant, je sais pas, mais même adolescent, je me souviens me disant « Ah, j'ai bientôt 18 ans, j'ai déjà 20 ans, ça passe vite. » Ouais,
c'est quoi? C'est une urgence de faire des choses
Oui, faire les choses. Je sais pas. C'est comme quand j'étais enfant, des fois j'allais au ski. Donc on arrive au ski le samedi, on sait qu'on part le samedi d'après et que la dernière journée de ski, c'est le vendredi. D'accord ? Et je me souviens adorer le dimanche, le lundi, puis le jeudi, commencer à déprimer. Et plutôt que profiter pleinement de ma journée de jeudi et vendredi, de déprimer à l'idée qu'il en reste plus que deux. Donc là, j'ai l'impression que ma vie, je suis genre, c'est jeudi, 11h du matin là.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fond dans le fait d'écrire des chansons? Est-ce que c'est un besoin de s'exprimer? Est-ce que c'est une envie de laisser sa trace, comme je disais? Est-ce que c'est un besoin de connecter avec les gens, une manière d'être au monde?
C'est un peu tout ça à la fois.
Ouais.
ouais, en fait, je me suis jamais posé la question. Enfin, en tout cas, je me suis pas dit. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, je pourrais écrire des chansons. C'est venu comme ça. Et je m'aperçois à quel point c'est important et à quel point j'ai ça dans le sang. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est naturel de formuler en mots, en poésie, en mélodie des sentiments. C'est un truc que j'ai vraiment. Et je m'aperçois que quand ça vient, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, d'être précis. Enfin, c'est vraiment un besoin d'être concis, d'être juste. Et je m'aperçois la jouissance que je peux avoir à chanter ça sur scène ou alors d'enregistrer tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très... Ça fait partie de mon corps, ça fait partie de mon truc. Après, ça pourrait être autre chose. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi, il y a sûrement une raison. Peut-être, mon hypothèse, c'est peut-être un déficit de communication quand j'aurais été enfant. Comme si on ne m'avait peut-être pas assez écouté, machin, et que j'avais absolument besoin d'être écouté autrement. Mais c'est même pas sûr que ce soit ça.
Pour communiquer avec les autres, est-ce que
oui,
vous
le
étiez...
reste du monde, enfin en tout cas, oui, parce que si j'étais sur une île déserte et si je pensais que personne n'écouterait jamais ce que je fais,
oui, bien sûr.
Je sais pas si je le ferais. Bah, je pense pas que je le ferais. Donc c'est, oui, l'envie de que ça sorte de moi, que mes sentiments, mes doutes, mes envies, mais parce qu'en fait chaque chanson c'est un sentiment, ça peut être des sentiments heureux comme malheureux, ça peut être la joie, le désir, le doute, le regret, l'énergie, l'envie, la flemme, la peur, l'angoisse. Enfin, chaque chanson, c'est un sentiment. Bah, tout ça, j'ai envie de le formuler.
Est-ce que ça a pu guérir des choses chez vous? Les formuler
Pour ça, il faudrait que j'appuie sur un bouton et que je vois comment je suis si je n'avais pas fait ces chansons. C'est pas d'un seul coup ça va mal, j'écris la chanson et ça va mieux, quoi. C'est pas si simple. Et globalement, il y a plein de fois où je doute à fond et je me dis. D'ailleurs, c'est marrant parce que je réécoute rarement mes chansons, enfin ça m'arrive, mais. Donc là, j'ai été spectateur depuis une demi-heure de trois chansons que j'avais déjà écoutées des milliers de fois, mais ça faisait un certain temps que je n'avais pas écouté. Donc d'un seul coup, les textes m'apparaissent. J'ai eu du recul dessus et je me dis, ah bah oui, c'est vrai. Dans une case, tu m'as mis. Ah bah oui, c'est vrai, je sais pas quoi faire, nanana. Ah bah oui, c'est vrai, la mélancolie. Enfin, donc je me sens en phase avec ce que j'ai, truc, mais c'est pas pour ça que je suis pas plus mélancolique ou que je sais ce que je vais faire demain ou que je mets plus les gens dans les cases.
Peut-être que ça apaise des choses en tout cas.
Sûrement, ouais.
Et pour composer, vous dites que vous partez souvent à l'étranger. Vous avez aussi voyagé pour d'autres raisons que la musique. C'est quoi? C'est une façon d'avoir plusieurs vies en une, ou c'est un besoin de liberté, ou de...
Alors j'ai vraiment fait le tour du monde, enfin, j'ai vraiment été presque partout, enfin, j'ai vraiment beaucoup voyagé depuis très longtemps. Donc je suis très curieux. Mais en général, je suis très curieux. Enfin, j'aime bien les gens, j'aime bien les trucs. Et je pense que j'adore l'histoire aussi. Donc peut-être qu'il y a un lien entre l'histoire et la géographie, c'est-à-dire que... C'est une façon, voyager dans l'histoire, enfin, lire un livre d'histoire, c'est une façon de s'extraire de sa réalité et de s'apercevoir qu'il y a qu'en fonction des époques, il y a plein de réalités, plein de rapports à ce monde, etc. Comme aller à 300 km d'ici et s'apercevoir qu'on ne parle pas pareil, qu'on ne rit pas exactement pour la même chose, qu'on ne se couche pas à la même heure, etc. Donc c'est quelquefois une fuite aussi de... Voilà, donc j'ai un besoin de voyage, et comme je peux adorer le cinéma coréen des années 60 ou les films machin, enfin, je m'échappe comme ça, ou dans la littérature aussi. Voilà, après le voyage aujourd'hui, bah, je voyage moins parce que j'ai, voilà, j'ose plus prendre l'avion, enfin je le prends quand même beaucoup moins. Enfin, avant c'était sans, je le prenais autant que j'avais envie, aujourd'hui c'est un peu moins, puis surtout que je suis tout à fait confiant qu'on peut tout à fait voyager en frappant à la porte de son voisin de palier. Et en dînant avec lui, puis en lui demandant de raconter sa vie. Enfin, on peut voyager de plein de façons. Et quant à l'association de l'écriture des chansons et des voyages, c'est pas pour m'inspirer, parce qu'en fait, comme je le disais, le premier jet d'une chanson arrive n'importe où, n'importe quand, et la chanson, elle existe déjà. Donc après, quand je pars pour voyager, c'est pas pour m'inspirer des sons de je sais pas quoi, c'est juste parce que être en voyage seul, c'est une façon de, justement d'être concentré, c'est un voyage avec moi-même aussi. Et c'est assez, en général, propice à me concentrer et à passer du temps pour écrire.
Mais là, pour le coup, vous restez à Paris
Donc là, je suis dans la première phase du travail, c'est-à-dire que je suis en train de faire des premiers jets, mais non pas avec ma guitare, comme je disais, mais avec des instrumentaux sur l'ordinateur. Mais ce ne sont que des premiers jets. Donc après, une fois que j'aurai validé un certain nombre de premiers jets, bah, il va falloir que je développe ces chansons, ces morceaux. Et il va falloir que je me trouve avec un papier, un stylo... Et voilà, donc peut-être que je partirai non pas à l'étranger, mais sûrement dans une retraite quelconque, enfin un endroit où je ne fais que ça du matin au soir, parce que c'est assez difficile quand on cherche vraiment à écrire. Des fois, pendant une heure, il ne se passe rien, ou alors on doute et machin. Et si le fait d'être à l'étranger ou dans une mission ou dans un endroit dédié, ça m'oblige, je sais que même si au bout d'une heure ça ne vient pas, je m'acharne et ça finit toujours par venir. Alors que si je fais ça au coin de ma rue, bah, au bout d'une demi-heure, bon, bah, tant pis, j'arrête. Et puis finalement, je ne sais pas quand je m'y remettrai. Donc le fait de fixer une date de départ et d'avoir comme ça un cadre...
C'est votre discipline.
Voilà, c'est une discipline, exactement.
On continue avec un titre qui représente pour vous le bonheur. Bob Marley, One Love. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Mathieu Bogaerts. Merci pour ce titre. C'est marrant parce que c'est un artiste qui revient pas mal chez mes invités qui parlent de bonheur.
Ah, c'est marrant.
Okay. Ouais. Qu'est-ce qui peut représenter un moment ou une journée particulièrement heureuse pour vous ? Qu'est-ce qui vous met en joie ? C'est assez vague comme question, mais... Ah, c'est vrai ?
C'est-à-dire que les moments où je me sens au bon endroit, au bon moment, sans me dire je devrais faire ça plutôt qu'autre chose, sans avoir des regrets de ce que ça pourrait être plutôt qu'être que ce que ça est, et sans me soucier du lendemain. Voilà, donc en gros, quand je vis l'instant présent sereinement, et c'est ce vers quoi je tends. Je ne prétends pas y arriver tout le temps, mais j'ai l'impression d'y arriver de plus en plus. Voilà, et puis tout bêtement, entre guillemets, l'amour, quand on sent amoureux, quand on sent, voilà, quand on aime quelqu'un et on sent qu'on est aimé par cette personne. Et malheureusement, ça m'est arrivé assez rarement. C'est-à-dire, j'ai eu plein d'histoires, Mais des moments où je suis vraiment serein avec quelqu'un, où je n'ai pas de doute, où je me sens... C'est assez rare dans ma vie. Donc peut-être que c'est aussi... Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Peut-être aussi ce manque, etc., qui me fait écrire des chansons pour combler un truc un peu sentimental, ou je ne sais pas.
C'est intéressant. Bon, on passe un appel ce soir. J'aimerais qu'on parle un peu de l'image dans votre travail, puisque vous travaillez avec un duo de graphistes que vous connaissez depuis longtemps. Depuis 30 ans, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans leur approche ?
Alors en fait, quand j'ai sorti mon premier disque, forcément se pose la question de à quoi je ressemble. Est-ce que je mets une casquette ? Est-ce que je mets un perfecto ? Est-ce que je suis barbu ? Est-ce que c'est une photo noir et blanc couleur ? Est-ce que c'est une typo ? Enfin, et l'idée, c'est absolument d'être le plus juste possible. Et pareil, avec le souci de ne pas faire comme mon voisin et de pas et d'être un peu intemporel et pas céder à l'air du temps.
D'ailleurs,
j'avais déjà ça en tête.
Il y a une chemise là.
Oui, enfin, c'est tout récent.
Pas aujourd'hui, mais.
Et donc. Voilà, donc j'ai cherché des... J'étais chez Polygram à l'époque, qui est une grosse maison de disques, et je leur ai demandé si je pouvais avoir accès à leur stock de disques. Et donc ils m'ont dit oui, donc j'ai passé une journée entière à regarder, je sais pas, mais 4000 pochettes, quoi, vraiment. Et j'ai 3 pochettes que j'ai extraites, et je me souviens plus qui c'était, c'est marrant. Et les 3 que j'ai extraites, c'était les mêmes duos, c'était les mêmes gens. Et donc un duo de graphistes qui s'appelle M&M, voilà. Donc ils sont parisiens, je les ai contactés. Et ils font mes pochettes depuis le début. Et en l'occurrence, ce sont devenus des stars absolues du graphisme. Enfin, vraiment mondial, quoi. Ils font des dans les musées du monde entier. Enfin, ce qui n'était pas le cas quand je les ai rencontrés. Bah, je sais pas, j'aime leur originalité, leur justesse, leur liberté, leur finesse, leur précision. J'ai du mal à mettre des mots, mais ça me touche. Vraiment, je me sens complètement en phase avec... Enfin, je comprends, j'ai l'impression de comprendre.
Ça vous parle.
Ça me parle complètement. Et après, comme ils ont fait le premier disque, puis le deuxième, puis le troisième, après ça...
C'est évident, quoi.
C'est évident, ouais. Et du coup, j'aime bien, ça fait une œuvre comme ça. Et du coup, comme ils connaissent les disques précédents, chaque pochette est un peu aussi en réaction à la précédente. Enfin, ils ont une vision globale de ce qui a été fait. J'aime bien.
Quand j'écoute votre musique ou que je regarde vos clips, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'assez... presque géométrique, il y a quelque chose de ludique, de très coloré. Est-ce que c'est des choses que vous visualisez quand vous écrivez ou quand vous composez ? Est-ce qu'il y a des couleurs
Pas vraiment des couleurs, mais quand j'écris une chanson, elle se place forcément dans un décor. C'est-à-dire qu'il y a toujours un champ lexical. Quand la première phrase de la chanson arrive... Et cette première phrase va tout de suite donner le ton. Est-ce que c'est des mots courts, des mots longs, des mots drôles, des mots nouveaux, des mots sérieux, des mots des gros mots, des mots naïfs, des mots sérieux. Et donc, il y a une espèce d'esthétique qui se crée. Et il y a pas mal de chansons qui sont assez imagées, qui sont, par exemple, dans une case de Tu m'as mis. Bah, tout de suite, il y a une case. Donc, je vois une case. Et donc, forcément, tout le champ lexical va être donc carrément, carré. Enfin, il y a du carré, il y a une case, il y a des ronds, enfin tout est... Voilà, je cherche une cohérence. Donc c'est pas forcément des couleurs, mais il y a un environnement qui se dessine petit à petit et je me soucie de rester cohérent et de pas en sortir.
Il y a une genre de mécanique dans la chanson à chaque fois.
De toute façon, la chanson, c'est une mécanique. Il y a des rimes, il y a un thème, il y a un nombre de pieds, il y a des sons qui sonnent ensemble, la musique, c'est de la mécanique.
On continue avec un titre pour un artiste pour qui vous avez eu un coup de cœur. Ça s'appelle « Tout tourne » de Maison Pierrot.
Tout le jour, nos visages ont changé. Tout le jour, nos visages ont tourné. Autour du soleil, avec les forêts. Autour du soleil, avec les objets. Dans le cercle parfait. D'une roue suspendue. Tout le jour, le linge a séché. Tout le jour, nos paupières ont tremblé. Des gens sont morts et des gens sont nés. Des téléphones ont sonné. Toute la journée, sans discontinuer. Tout tourne tout le temps, tout le la lune. Et les clochers, tout tourne tout le temps. Jamais tu n'y avais pensé. Et d'hiver en été, les fleurs poussaient sans voir la lumière descendre sur la terre. Et maintenant que l'ombre a gagné, maintenant que la nuit est tombée, tu regardes dans l'obscurité les feuilles des arbres bouger dans le ciel sans étoiles de ta ville natale. Tout tourne tout le temps, la lune et les araignées.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Mathieu Bogarts. On vient d'écouter Tout tourne de Maison Pierrot. C'est magnifique.
J'adore ce morceau. Je suis tombé dessus vraiment par hasard par un site de musique en ligne. Ça m'a été proposé. Je me suis dit, mais c'est quoi ? Je trouve ça hyper beau. À chaque fois que je l'entends, j'ai envie de chialer carrément. Enfin, moi, ça me touche à fond.
Ouais, ouais, c'est très touchant.
Je me suis aperçu que le mec faisait partie du groupe Catastrophe.
Ouais.
Et je l'ai rencontré. D'ailleurs, je l'ai invité parce que lors de mes derniers concerts à Paris, à l'Archipel, chaque soir, il y avait un invité. Il a fait partie des invités. Il a chanté ça au piano. J'étais tremblant carrément. Je sais pas quoi en dire. Si ce n'est voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à en dire.
Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve ça magnifique. Merci. On va bientôt se quitter. Mmh. L'émission touche à sa fin. Si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à un artiste qui commence, je sais que vous avez écrit un livre, ouais, qui est une méthode de composition qui s'appelle Je ne sais quoi, qui est sorti en 2010.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas, ouais, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous auriez un petit mot, un encouragement
Alors je dirais de s'écouter soi plutôt que de ne pas essayer de faire ce qu'on pense, enfin de s'écouter soi-même, donc de faire déjà de la musique pour soi. Voilà, et je dirais de se comparer au plus fort plutôt qu'au plus faible. Parce que souvent on peut se dire toujours mettre la barre haut, quoi. Voilà, c'est ce que je dirais.
Ok, on prend. Ouais.
Autre chose, pardon. Ah. Je dirais de considérer l'ensemble. Parce que des fois, on peut s'attacher à un mot, s'attacher à un son, s'attacher à un machin, et finalement, ce qui est important, c'est l'ensemble. Donc si par exemple, il y a un super solo de guitare qui est génial, mais par contre, ça rend le morceau trop long, et du coup, on s'ennuie au bout du morceau, bah, même s'il faut assumer d'enlever le solo, parce que ce qui compte, c'est l'ensemble. Comme un monteur d'un film, il a plein de séquences et même s'il y a une super scène dans la salle de bain, eh ben, il faut peut-être l'enlever parce que le film sera mieux au final. Donc accepter d'enlever des choses ou en tout cas de toujours prendre du recul et considérer l'ensemble. Voilà ce que je dirais.
On va se quitter avec le titre « Il faut toujours écouter son corps ». Du coup, forcément, il faut que je vous demande quel est votre rapport à votre corps, parce que sur scène, vous avez quand même une façon de bouger très particulière, vous êtes très à l'aise, il y a toujours beaucoup de groove, de sensualité, quoi. Vous êtes très ancré. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé en faisant de la scène ou ça a toujours été... Parce que même au tout début de votre carrière, je repense à des émissions en live, vous avez toujours eu ce...
Non, j'ai pas du tout travaillé ça, mais j'adore danser, j'ai toujours adoré danser, même quand j'étais petit, je dansais. Et en fait, quand on a une guitare dans les mains et un micro autour duquel on peut pas bouger, ben forcément, il y a d'autres parties du corps qui se manifestent, donc ça fait des mouvements un peu singuliers. Si j'ai pas de guitare et j'ai pas de micro, je danse autrement que quand j'ai une guitare et que j'ai un micro. Il faut toujours écouter son corps, mais je ne l'écoute pas assez. En l'occurrence, j'aime bien manger. Des fois, je mange trop, alors je sens qu'il faudrait que j'arrête, mais je continue à manger.
On est tous comme ça.
Voilà, donc je n'écoute pas tant mon corps que ça. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, j'ai jamais eu le projet d'écrire une chanson là-dessus. Mais la phrase qui m'est venue ce matin-là, il faut toujours écouter son corps. Je dis, c'est marrant cette phrase. Et après, j'ai tiré le fil de ce propos.
Très bien. Eh bien, il faut absolument écouter cet album Grand Piano qui est vraiment sublime. Il faut aller vous voir sur scène.
Alors, près de Paris, j'ai noté trois choses. Je joue à Massy-Palaiseau le 22 janvier, à Nogent-sur-Marne le 23 janvier. Et je fais l'ultime concert de fin de tournée à l'Archipel à Paris dans le 10e, le 4 avril. Et il n'y a pas beaucoup de place, donc
dépêchez-vous.
Maniez-vous les gars.
Merci beaucoup Mathieu Bogart.
Merci à vous.
Merci à la régie, merci à Tôt ou Tard, merci à Jeanne qui est avec nous et à Thibaut Manchon-Gonneau. Et on se quitte avec « Il faut toujours écouter son corps ». Thank you.
nos efforts, dit la vérité n'a jamais tort. Il faut toujours écouter son corps, ne pas être sourd, pas que tu ignores. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, ou courir ou dormir, tout ce qu'il a à te dire. Aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit somnole, il faut toujours l'écouter.